Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices, bonsoir à vous. Radio de Rage, voix du jeune. Dans ce nouveau numéro qui coïncide avec le 5 juillet, 54 ans après l'indépendance, dont nous avons parlé avec le groupe de jeunes invités d'émission, Jawad Rostam, militant associatif et auteur aussi, Lydia, militante associatif au sein de la Mouti Tirar, Karim, militant de l'association Rage et membre du bureau de Bouyana. Donc, dans ce nouveau numéro de l'émission qui est consacré au regard de la jeunesse sur l'indépendance du pays, sur la situation du pays, faire un constat général, une vision globale sur la situation de jeunesse, leurs problèmes, leur vécu, etc. Donc, sans trop parler, donc, je préfère passer la parole à Jawad pour nous donner, donc, un constat ou un diagnostic sur son regard sur ces 54 ans de l'indépendance.
Bonsoir à tous. Bon, déjà, diagnostic, je n'ai pas cette prétention, hein. J'ai juste exprimé un ressenti. C'est que c'est une fête, réellement. Donc, je ressens ce 5 juillet-là comme une fête. Celle de notre indépendance, celle de notre sortie de la nuit coloniale. Et je pense que maintenant, il faut juste prendre conscience, d'une part, que tout reste à faire. Parce que l'indépendance a chassé, certes, le colon, la colonisation de peuplement. Mais elle a aussi ouvert la voie à un impérialisme plus moderne. Moderne et plus insidieux, et donc ça a ouvert la voie à d'autres défis. Donc il faut qu'on prenne aujourd'hui conscience, d'une part, que 62, ça n'a pas été la fin de la convoitise impérialiste, mais seulement le début. Ça a été le début du combat. Et ce début-là, toutefois, ça a été aussi le début de l'obtention de moyens pour y faire face. Et donc, je pense que, voilà, moi aujourd'hui, je suis universitaire. Comme tu l'as cité, je suis auteur. C'est pas pour faire ma promotion, mais c'est juste pour dire que si j'ai pu être auteur, si j'ai pu être un licencié, si j'ai pu obtenir un magistère, c'est grâce à l'État national, pas l'État au sens du gouvernement, l'État national algérien. C'est-à-dire que c'est grâce à l'Algérie indépendante. Donc, moi, je me considère comme un produit de l'État national et je suis très heureux de commémorer cette fête de l'indépendance là. Et je pense que malgré tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, cette dérive peu revancharde, un peu désespérée, et pour ne pas dire un peu imbécile, qui consiste en déplorant l'état actuel des choses et toutes les lacunes et toutes les turpitudes du régime actuel, de faire le parallèle avec l'ordre colonial en disant oh, bah tiens, finalement peut-être qu'on aurait dû, peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'avec des constructions fantasmatiques du genre, oh, ben peut-être qu'on n'aurait pas dû chasser les pieds noirs comme si c'était de notre fait. Peut-être qu'on aurait dû faire, comme a dit certains aliénés, faire de le fer de lance de notre développement, comme si nous ne pouvions pas nous-mêmes être ce fer de lance-là. Tout ça, c'est du révisionnisme nauséabond. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse doit prendre conscience qu'elle est le fer de lance de la société et que c'est à elle...
Et tout à faire.
D'abord que tout est à faire, mais de toute façon, comme disait Monterland, tout est toujours une chose à réformer. Donc, l'enjeu de la jeunesse, et je vais finir sur ça, pour passer la parole, l'enjeu de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle comprenne qu'elle est le fer de lance du développement et qu'elle n'a besoin ni d'X ni d'Y. Voilà. Il faut qu'elle se réapproprie l'indépendance pour lui donner le sens de l'ambition qu'elle porte. Elle-même.
Effectivement, ouais. Jawad, donc se réapproprier l'indépendance, c'est toute une construction, toute une démarche à faire, tout un processus de jeunes pour la jeunesse, pour construire l'avenir. Ouais. Donc ma question pour Lydia, c'est que réellement, 54 ans après l'indépendance, aujourd'hui la jeunesse est en train de se trouver dans les mêmes clichés, dans les mêmes débats de passé, dans les mêmes problèmes. Est-ce que on est réellement sorti de cet embargo de l'État, disons, de c'est pas l'État colonial, mais c'est, je peux pas la qualifier d'État colonial, mais de cette omniprésence de d'un pouvoir, d'un despotisme de pouvoir. Donc la regarde la jeunesse sur ces 54 ans passés déjà. Comment vous les voyez?
Je ne pourrais parler que du point de vue culturel, puisque c'est notre domaine avec une meute littéraire. Je préfère ne pas m'aventurer dans la politique, bien que tout soit imbriqué. Mais oui, on a remarqué un néocolonialisme depuis quelques années déjà, et on est en train d'étudier dessus, justement pour en faire tout un travail de recherche. Jawad a commencé déjà à travailler dessus. On remarque dans la littérature qui qu'il y a présence de la France coloniale dans les romans algériens. Donc déjà ça, oui, pour répondre à ta question partiellement, vraiment partiellement, il y a toujours la présence coloniale dans, à travers la littérature, à travers la culture en général. Donc maintenant, pour parler de la politique, je préfère vraiment pas, parce que sauf
choix.
Si voilà, il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir dessus.
Et donc je peux poser une question autrement. Donc en matière de création culturelle, est-ce que la jeunesse algérienne aujourd'hui est là dans ce processus de création culturelle?
Oui, je trouve.
Ou quelque part, on y a des manques peu qualifiés d'une absence de prise en charge de cette jeunesse, de sa perception de la culture algérienne, etc. Donc est-ce que la jeunesse est là au cours de la construction culturelle?
Je pense qu'il y a tout à construire en ce moment, puisqu'on est je sais pas, on dirait qu'on, c'est pas qu'on se découvre, mais qu'on est en pleine construction. De toute façon, 54 ans après, il y a tout à faire, comme l'a si bien dit Jawed. C'est très difficile de parler après Jawed, hein, parce qu'il résume tellement bien les choses.
Il a tout résumé quelque part.
Ouais, je l'ai payé pour dire ça.
Un brossage.
Hein. Ouais.
Oui. Non, mais 54 ans après, ce que je pourrais en dire, c'est que je me rends compte que moi, à 25 ans, donc c'est quoi, c'est la moitié de l'âge de l'indépendance. J'ai connu très peu mon histoire comme il le fallait pour pouvoir me construire, mais c'est à 25 ans que je suis en train de découvrir beaucoup de mon histoire pour construire quelque chose par moi-même. Donc si je me prends comme exemple, je pourrais dire qu'on est en pleine construction, que ce soit de notre culture, de notre histoire ou de tout ce qui peut constituer la jeunesse d'aujourd'hui. Et vis-à-vis de la construction, tu as dit quoi par rapport à... C'est-à-dire ce qu'elle est culturel. En train de faire
de
par elle-même.
Oui,
voilà. Je trouve qu'il y a énormément d'initiatives de la part de la jeunesse. Dire que la jeunesse algérienne ne fait rien, c'est pas vrai. Au contraire, elle est en train d'essayer de créer par elle-même en s'appropriant son identité constamment. Donc après, il y a des mouvements où on voit qu'il y a une sorte d'ingérence de l'Occident ou un truc comme ça. Mais je trouve qu'il y a une sérieuse volonté de se réapproprier notre culture, notre identité. On se pose beaucoup de questions et c'est aussi grâce à l'indépendance, comme l'a dit Monsieur Ben Saad, hein, c'est grâce à l'indépendance qu'on est en train de parler ici de ce genre de questions. Donc 54 ans après, je trouve que c'est une énorme avancée de pouvoir se réunir ici, de se poser ce genre de questions et d'en débattre. Est-ce que il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça?
Donc, ok, mais c'est bien l'idée. Donc je reviens à Karim, camarade Karim. Donc, d'après toi, quel regard aujourd'hui la jeunesse algérienne porte à ces 54 ans qui viennent s'écouler après l'indépendance?
Oui, merci Rahim. D'abord, moi, en tant qu'Algérien, nous rendons normalement un vibrant hommage à tous les martyrs et les moudjahidines qui ont lutté pour une Algérie algérienne, parce que le 5 juillet, ce n'est pas seulement une date commémorative, mais c'est une libération de tout un pays, c'est une rupture avec un passé colonial. Donc, un événement, il faut qu'elle continue en chacun de nous de poursuivre le chemin tracé par ces êtres immortels et exceptionnels qui ont forcé le respect et l'admiration à l'exemple de ces hommes et femmes qui ont combattu, lutté, se sacrifiant pour une cause juste afin de vivre notre Algérie libre et indépendante. Aujourd'hui, 54 ans, si on fait un petit constat sur la situation de la jeunesse algérienne, ça veut dire, c'est vrai que c'est les jeunes Algériens qui ont fait face à une des plus grandes puissances mondiales dans cette époque-là. On sait tous que chaque génération a sa mission, chaque époque à ses exigences. C'est vrai, c'est une mission qui est très difficile pour des jeunes de 54. Mais même aujourd'hui, la mission est encore très difficile parce que à cette époque-là, l'adversaire, ça veut dire, il est vu, c'est la menace étrangère, c'est la France coloniale. Mais aujourd'hui, si on fait un petit constat, ça veut dire, on est toujours, on peut dire que l'Algérie, ces gens-là, c'est vrai, ils ont réussi de libérer le territoire national, mais pas l'homme. Les libertés sont toujours une question. Aujourd'hui, on voit des arrestations, des journalistes sont arrêtés. Donc, il y a toujours un manque sur le plan des libertés. Et aussi, il doit être, cette date, il doit être un bilan pour les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 62? On s'est trouvé aujourd'hui à une Algérie, près de 54 ans, à une Algérie des paradoxes, à une Algérie qui a de l'argent, à une Algérie des richesses, du pétrole, du gaz, également une Algérie de l'injustice, de l'inégalité. Ça veut dire des répressions aussi. Et notre mission en tant que jeunes aujourd'hui, je pense que la mission, la seule qu'on a, c'est de bâtir l'espoir, parce que on voit dans la jeunesse algérienne que le désespoir a gagné presque la majorité de la jeunesse algérienne. Voilà.
Mais c'est bien Karim. Donc je reviens à Jawad, donc quelque part, donc c'est, je pense, pendant dans les réels de la situation de la société algérienne, quelque part nous permet de réellement de porter cette analyse sur une base réelle. Donc ma question, c'est que 54 ans réellement après l'indépendance, il y en a des problèmes sociaux qui se posent en matière de chômage, la formation, l'accès aux droits, le soin, etc. Donc la jeunesse qui est quelque part qui est majoritaire, naturellement en fait de sa position, une Algérie qui est constituée d'une moitié de population d'une jeunesse de 15 ans à 25 ans, quelque part, c'est, donc, si on discute cette réalité sociale, la jeunesse algérienne, il est, je peux pas dire au bas de l'échelle, mais dans une situation qui est difficile en matière d'arwa et d'accès aux droits.
Oui, bon, d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Karim. J'ai beaucoup aimé sa phrase sur la mission de la jeunesse. Ça m'a rappelé cette magnifique phrase de France Fanon. Chaque génération doit découvrir dans une relative opacité sa mission et la remplir ou la trahir. Donc, j'ai beaucoup aimé cette évocation-là. Ensuite, j'aimerais très rapidement revenir sur la question que tu as posée à Lydia au sujet 54 ans après, nous sommes toujours dans un certain despotisme. C'est comparer deux ordres incomparables. Aujourd'hui, c'est vrai que le régime est ce qu'il est, avec ses turpitudes et sa dictature, etc. Toutefois, le comparer avec l'ordre colonial pour dire que 54 ans après, finalement, madrna walou, c'est vraiment un paradigme complètement erroné. C'est-à-dire, c'est comparer deux ordres absolument incomparables. À partir de là, c'est la porte ouverte à la recolonisation, c'est la porte ouverte à l'acceptation du néocolonialisme et de l'impérialisme. 62, ça a été la victoire contre la colonisation, nous avons réussi la décolonisation. Donc, nous avons réussi à vaincre l'impérialisme direct. Toutefois, nous avons aussi ouvert
les portes pour un impérialisme direct.
Voilà, nous avons ouvert la porte à un nouveau combat, qui est l'impérialisme économique. De toute façon, même le capitalisme a opéré quelque part sa mue, et il est un peu sorti du colonialisme direct, a fait tomber, entre guillemets, en désuétude. Donc, voilà, comparer les deux ordres, c'est complètement incomparable, ceci d'une part. D'autre part, pour répondre à ta question par rapport à la marginalisation de la jeunesse, c'est un peu dans l'ordre des choses, puisqu'aujourd'hui, on peut, si on appelle un chat, c'est-à-dire on avait commencé à amorcer un certain développement. On peut discuter là-dessus des heures et des heures. Toutefois, on peut dire que durant les années entre 65 et jusqu'aux années 80, il y avait une amorce de développement. Il y a eu des réalisations, il y a eu des infrastructures, il y a des statistiques à l'appui. Donc, ce sont des faits concrets et vérifiables. Et si nous sommes des universitaires aujourd'hui, c'est grâce à ces constructions-là. Donc, après, j'aimerais reprendre justement. Ce développement a été contrarié. Et j'utilise cette expression parce que je fais référence à l'excellent livre de Abdallah Tefer Bah, Le développement national contrarié. Il a été contrarié d'abord par la désindustrialisation. Voilà. Il a été contrarié par la décennie noire, qui a entre autres été une guerre de l'opium pour nous faire adhérer au consensus de Washington. Et ensuite, s'en est suivi, comme l'a évoqué Lydia, une reconquête par la culture pour nous faire admettre, c'est-à-dire une reconquête par la superstructure pour nous faire admettre la reconquête de l'infrastructure, c'est-à-dire de l'économie. Donc, afin d'accepter finalement que l'on devienne un État vassal et une économie vassale, on est en train de transformer notre culture en une culture vassale, en une culture monde. Voilà. Via ce que les penseurs français appellent la littérature monde, c'est-à-dire une littérature inscrite dans un impérialisme culturel français. Donc, la jeunesse a un rôle à jouer. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé a une mission à remplir. C'est pour ça que j'ai aimé l'expression de Karim. Et le travail des jeunes élites, c'est de fédérer autour d'eux les jeunes de leur génération, puisque peut-être que du point de vue du langage, du point de vue des constructions mentales, du point de vue des références, il y a une communauté quand même de langage qui fait que le courant passe mieux. Mais ensuite aussi de renouer le contact avec les anciennes générations, de renouer le contact avec ceux qui n'ont jamais trahi le combat révolutionnaire et ceux qui portent la mémoire de ces valeurs-là. Parce que comme disait Fanon, une culture nationale, les lendemains de la culture nationale sont fonction aussi des valeurs qui ont hanté le combat libérateur. Donc il faut retrouver ces valeurs-là pour reconstruire à la fois l'économie et ensuite la culture. Enfin, pas ensuite, mais c'est un engendrement réciproque, je pense. Donc voilà, je pense, le défi qu'il y a à relever pour la jeunesse, c'est absolument, absolument de recouvrer notre cohésion. Il faut absolument qu'on en réapprenne à discuter ensemble. Partout, hein, pas forcément Naya ou la Université ou la Filhouma, partout. Il faut qu'on ressuscite l'agora. Il faut qu'on sorte de la séparation. C'est-à-dire, il faut que le discours politique au sens réel des affaires de la cité sorte de la, voilà, sorte de la représentation spectaculaire qu'est l'Assemblée et qu'il réinvestisse la cité. Voilà. Pour ne pas m'étaler plus
loin. Mais c'est bien, je vois. Donc, je pose la même question au Parlement pour Lydia, c'est que, réellement, aujourd'hui, la jeunesse, c'est que, la question qui se pose d'une manière directe, ce manque d'accès aux infrastructures, ce manque d'accès aux libertés, ces restrictions de liberté. Récemment, on est en train de constater un emprisonnement des artistes, des gens qui font un métier d'artiste, etc. C'est une remise en cause quelque part de la révolution elle-même qui est censée être libérer les gens, libérer les initiatives, libérer les pensées, etc. Donc, culturellement parlant, aujourd'hui, est-ce que réellement les associations algériennes, les jeunes adhérents aux associations algériennes peuvent s'émerger, peuvent s'émanciper dans un terrain qui est quelque part qui est figé, coincé et cloué par des volontés politique, etc. Et sociale et culturelle.
C'est une question qui mérite réflexion, oui. Il faudrait vraiment peser ces mots-là par rapport à cette histoire d'artiste. Oui, peut-être que tu parles de la répression de la liberté, enfin, la liberté d'expression, c'est ça.
Tout à fait, liberté d'expression, liberté de culture, liberté d'initiative, etc.
En général, la liberté en général. D'ailleurs, ça serait aussi définir...
Le fait que des jeunes, aujourd'hui en Algérie, ne trouvent pas un espace pour se regrouper, un espace pour se débattre, un espace pour s'organiser, etc.
Le manque de débat, oui, dans la société.
On ne peut pas le qualifier comme étant une remise en cause que des acquis de la révolution, mais quelque part, c'est des remises en cause des acquis sociaux qui viennent après la révolution. Parce que je pense que la jeunesse algérienne a suivi ce parcours historique qui n'a pas, on ne s'est pas arrêté dans la révolution, c'est des gens qui ont fait la révolution, etc. Mais il y en a des mouvements qui sont une succession de mouvements, quelque part, qui a drainé des acquis sociaux. Aujourd'hui, notre jeunesse, notre génération est confrontée à ce problème. Que ces acquis sociaux, on est en train de les perdre, on est en train de les mettre en cause. C'est ce que je pense que je peux nommer, c'est un charriage d'Arwa et des acquis sociaux au sein de la société algérienne. Donc, ce que je pense, c'est que notre génération, notre jeunesse, quelque part, peut s'émerger culturellement dans ce terrain, dans ce tissu qui est en train d'être.
Sincèrement, c'est des histoires. Enfin, je vois de quoi tu parles mieux maintenant, mais je prends en exemple ce qui s'est passé récemment. C'est vrai, il y a de quoi se poser la question, pourquoi on enferme des artistes ou pourquoi on les empêche de s'exprimer. C'est quoi cette histoire de répression de liberté, c'est quoi ça, tu vois? Mais je pense qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte et sincèrement, je ne me sens pas du tout réprimée, Anaya, en étant ici pour parler. Après, ça dépend. Ça dépend comment on est positionné pour parler de la liberté d'expression, sincèrement. Parce que ça dépend de la vision de cette liberté d'expression. Parce que pour moi, la liberté d'expression qui existe, par exemple, en France, puisque c'est le pays qui est juste là, et tout ce qui s'est passé par rapport à leurs histoires de liberté d'expression, il y a de quoi se demander ce que ça signifie réellement. Oui. Donc ici en Algérie, on vit ça, on est en train de vivre ça d'une manière pas nouvelle. On a connu ce que c'était que l'expression, que la liberté d'expression complètement réprimée. Mais je trouve que c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs.
Non, il nous vient pas que d'ailleurs, mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un recul. Voilà, c'est qu'il y a un recul général des démocraties. Quand on voit la réaction élitiste face au Brexit. Quand on parle déjà de refaire le référendum, quand ailleurs on dit, quand en France par exemple, un politique dit, je suis complètement hostile à un référendum parce que je sais que le peuple français choisira de sortir de l'Union européenne. Il est en train de dire, texto, je suis contre la démocratie. Donc il y a un recul. On voit la répression des mouvements sociaux face à la loi Khamri, on voit la répression des syndicats, des manifs. Donc il y a un recul des démocraties partout.
Partout dans le monde.
Donc le problème, ce n'est pas le régime algérien dans son algérianité. réalité, c'est le régime algérien, c'est le régime en fait inféodé à l'impérialisme, qui est soit lui-même impérialiste ou qui est inféodé, ce qui est encore pire, c'est-à-dire Alain Berdo, qui est inféodé à l'impérialisme étranger. Mais ce n'est, c'est-à-dire, il faudrait cesser aussi, parce que quand on remet en cause les acquis révolutionnaires, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un problème uniquement algérien. Nous sommes dans un contexte mondialisé. Il faut comprendre aujourd'hui que l'impérialisme touche tous les peuples qui veulent décider d'eux-mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème se pose aussi pour les Britanniques, il se pose aussi pour l'Amérique latine, il se pose aussi pour la France. Tous les peuples qui aujourd'hui veulent disposer d'eux-mêmes et veulent faire de leur pays, de leur richesse et de leur économie les instruments de leur bien-être, c'est-à-dire à eux en tant que peuple et non pas à une oligarchie, à une minorité de capitalistes, tous ces peuples-là sont confrontés à la répression de la liberté d'expression, à la matraque et aux emprisonnements.
À des échelles différentes.
À des échelles différentes. C'est-à-dire que notre seule relative particularité, c'est qu'on vient avec le régime Tana, il vient avec ses gros sabots, il manque de subtilité. Et donc ça crève un peu les yeux. Mais à part ça.
C'est vrai, oui, il y a même, comme elle a déjà dit, il y avait même le contexte international. Ça veut dire qu'on ne veut pas le changement en Algérie. Si on peut faire un petit regard sur l'histoire, ça veut dire après la Seconde Guerre mondiale, il y avait trois guerres sauvages au monde. Il y avait la guerre de la Yougoslavie, la guerre civile à la porte de l'Europe. Mais quand même, il y avait une mise en place d'une cour pénale internationale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et encore, il y avait la guerre civile à Rwanda, 1 million de victimes, 94. Mais il y avait aussi une mise en place d'une cour pénale internationale. Le troisième conflit sauvage aussi, c'est la guerre civile en Algérie des années 90. 250 000 morts, plus de 15 000 disparus. Mais aucun de ces responsables n'a été jugé. Ici, les mêmes responsables de l'île de côté, ils sont à ce jour-là, soit au pouvoir, soit dans la rue. Et ça veut dire, tu vas comprendre qu'il y a un clan à l'intérieur du système qui veut pas le changement et malheureusement il est soutenu par l'international. Sinon, la jeunesse algérienne, c'est la marginalisation. C'est pas seulement la jeunesse qui a été marginalisée en Algérie. Ça veut dire il y a la marginalisation de tout le peuple, de toute une idée qui vient contre le régime.
L'ordre existant. L'ordre d'une manière globale, soit mondiale.
Parce que la jeunesse et la guerre de libération est faite par la jeunesse. Tous les mouvements démocratiques menés depuis l'indépendance à ce jour, les mouvements pacifiques, sont menés par la jeunesse. Et en citant, ça veut dire le 88, c'est la jeunesse algérienne qui sorti quand même pour réclamer la liberté et les conditions sociales. Mais malheureusement, le pouvoir a fait piller le peuple algérien le fait d'avoir osé réclamer un jour sa liberté par une guerre sanglante qui a duré 10 ans pour empêcher la démocratie en Algérie.
Donc, effectivement, Karim, je te pose la question, la même question, mais d'une autre manière. C'est qu'aujourd'hui, l'université algérienne, il est confronté à cet bouillonnement de la société. Quelque part, l'université algérienne suit la société d'une manière directe. Quel constat peut-on en faire sur l'université algérienne par rapport à la société? Est-ce qu'il suit l'évolution de la société algérienne réellement, comme on le pense, ou cette université il est dans une lutte séparée par rapport à ce que la société aujourd'hui exige d'elle?
Oui, ça veut dire la crise. Il y a aussi une crise profonde à l'intérieur de l'université algérienne, malgré qu'on voit le nombre d'étudiants qu'on a aujourd'hui est supérieur à celui de l'époque. Mais il y a des luttes syndicales, c'est vrai, il y a des gens qui luttent, mais la majorité, mais il y a toujours une répression déjà. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont laissé l'université algérienne aujourd'hui à prendre ce recul-là. Ça veut dire, d'abord, il y a les effets du système éducatif, des réformes qui ont été faites par le pouvoir, ou comme l'a dit Tarjaout des années 90, que le programme éducatif algérien il a supprimé l'esprit d'analyse de l'étudiant. Et aussi, il y a la politique menée par le système, ça veut dire, surtout à l'arrivée du chef d'État actuel, il a fait un taux de réussite historique, presque plus de 50% qui ont leur bac, et ils ont fait de l'université un congélateur pour les jeunes Algériens, ça veut dire les jeunes à l'âge de révolte, à l'âge où il peut réclamer, ça veut dire ses conditions, etc. Il va lui donner un peu de l'espoir et de le mettre à l'université. Il va rester combien de temps à l'université? Après, quand il sort, il attend, ça veut dire en Algérie, une année, deux ans, quand même, tu es diplômé. Il attend juste le travail pour améliorer ses conditions sociales, etc. Et après, c'est trop tard. Donc, ça reste l'université algérienne, c'est une bombe à retardement. La jeunesse qui sort chaque année. Il n'y a pas une politique pour augmenter, ça veut dire pour faire une vraie qualité de l'étudiant algérien. Ça veut dire la quantité, il y en a, mais il n'y a pas de qualité, parce que le système éducatif, c'est un système médiocre. C'est un système qui est le plus archaïque dans toute la région, hein, par rapport à nos voisins, etc. Il y a aussi la répression de pouvoir.
Donc, je reviens, donc, je pose une question, donc, je fais un rappel historique. Donc, en 56, des étudiants algériens, donc, qui ont rejoint la révolution d'une manière, donc, d'une manière massique, etc., pour soutenir la cause qui était la cause noble, une cause consciente, c'est la cause de l'indépendance d'Algérie. C'était pas, je pense, une décision fortuite qui vient instantanément, mais c'est une décision mûrée, bien pensée. C'est sacrifier combien de jeunes étudiants, etc., qui rejoignent la révolution pour l'indépendance, ça veut tout dire. Aujourd'hui, si on y a une leçon à prendre, ou une leçon à prendre de cette manifestation, de cette volonté des étudiants algériens rejoindre les maquis, quelle leçon peut-on prendre aujourd'hui en tant que jeune Algérien sur cet événement que je qualifie d'historique?
Absolument.
D'historique. Une manifestation, donc une volonté d'aller jusqu'au bout de l'indépendance en 56.
D'abord, je voudrais juste revenir un peu sur la décadence de l'université algérienne. Il faudrait préciser une chose, c'est que cette décadence-là, elle est générale. Et elle est spécifique, entre guillemets, aux sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a une décadence aujourd'hui mondiale dans les sciences sociales. C'est pas moi qui le dis, c'est Lucien Gondwan, qui, en parlant de la sociologie, disait que la sociologie aujourd'hui est en train de produire des diplômés analphabètes. Je cite texto. C'est Lucien Gondwan, l'un des plus grands sociologues de notre temps. Il y a une volonté affichée aujourd'hui de vider les sciences sociales de tout contenu idéologique.
Historique.
Voilà.
Une partie idéologique, la partie.
Voilà, il y a une émergence de la pensée ahistorique pour fixer l'ordre social actuel, qui est l'ordre du triomphe du capitalisme, comme une sorte d'ordre naturel, essentiel et immuable. Et ça rejoint donc, c'est pour ça aujourd'hui que la décadence de l'université algérienne rejoint cette décadence-là mondialisée. Parce qu'il faut préciser quand même une chose, c'est que dans le domaine technique, nous sommes en train de former aussi des petits génies. C'est-à-dire que l'USTHB continue, je peux même t'en présenter, de former des petits génies qui, au sortir de l'université, hélas, sont tout de suite récupérés au sens purement économique. Hein. C'est-à-dire, ils sont tous s'expatrient et trouvent et vont ensuite faire le bonheur d'autres nations. Donc, l'université algérienne dans le domaine technique, par imitation de l'ingénierie sociale mondialisée, est en train de former d'excellents techniciens. Mais dans le domaine des sciences sociales, et donc forcément aussi économiques, est en train de former des diplômés analphabètes absolument inaptes à produire une pensée historique, et donc absolument inaptes à contrecarrer l'hégémonie idéologique de l'impérialisme dominant. Raison pour laquelle un diplômé en économie, en sociologie, en sciences po, va se retrouver dans un showroom, va se retrouver dans un centre d'appel, va se retrouver dans ce que David Graeber appelait des bullshit jobs. Donc voilà, c'est et la grande différence là encore entre le système mondialisé et le système algérien, c'est que cette ingénierie sociale passe plus ou moins inaperçue. Il a fallu que Goldman en parle, enfin, et d'autres aussi, Michel Dion dans son excellent essai Sociologie et idéologie, etc., pour un peu faire cette critique là. Chez nous, c'est assumé et de manière à la fois ridicule et tragicomique. Parce que lorsque notre intermittent du spectacle dit لازم نخرجوا من الشعر ونقول اعوذ برب الفلق. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dénigrer les sciences sociales et de dire l'avenir c'est les sciences techniques. On n'a pas dit le contraire, les sciences techniques sont absolument nécessaires. Mais eux ce qu'ils veulent c'est des ingénieurs complètement dépourvus de conscience politique et à côté des diplômés en sciences sociales qui ne peuvent pas faire ce travail-là. Tu vois. Donc afin de produire une classe moyenne complètement élargie de consommateurs abrutis et pour qui, c'est-à-dire le bonheur et la liberté, c'est dans la consommation.
Et tout ça dans un processus mondial globalisé.
Voilà, exactement, exactement. Donc rien de ce qui est fait dans les plus hautes instances n'est fait Hagdaya. Après, bon, il y a peut-être des petites chamailleries à côté, mais finalement, tout est inféodé à un contexte mondialisé. Si on ne comprend pas ça, on va rester dans ce que Frantz Fanon appelait l'invective cathartique. C'est-à-dire qu'on va, ouais, pouvoir, là, ça, c'est un ceci, cela. Mais derrière, où est l'analyse qui va permettre, pour reprendre encore, voilà. C'est-à-dire, au lieu de décrire, les conditions existantes, ce qui importe, c'est de transformer, c'est de supprimer.
Parfait, ouais.
Voilà. Maintenant, vite fait, concernant le 19 mai 1956, c'est un événement historique, que tout jeune Algérien, sur lequel tout jeune Algérien devrait réfléchir, méditer, et que l'on devrait commémorer, je pense, surtout cette année 2016, qui est une année d'offensive violente à tous les points de vue, une année d'offensive impérialiste contre l'économie, contre la société et contre la culture. Cette date historique de toute une jeunesse, de toute une jeunesse intellectuelle qui a choisi le combat révolutionnaire, qui a choisi décidé de rejoindre la paysannerie, c'est-à-dire qui a montré de la façon la plus forte et la plus concrète qui soit la cohésion sociale révolutionnaire à son plus haut niveau, c'est-à-dire la classe intellectuelle qui rejoint la paysannerie pour les mêmes valeurs et pour le même combat libérateur. Je pense qu'il faudrait multiplier pendant toute cette année des conférences et des débats sur le sens extrêmement profond de cet acte-là et sur les figures que représente Talib Abdelrahman, que représente tous les étudiants qui ont refusé de fausser compagnie au peuple, qui ont refusé d'être les idiots utiles du colonialisme,
d'acteurs dans le terrain,
qui ont refusé d'être les pantins qu'on va agiter en disant regardez, l'ordre colonial est juste et il produit des élites algériennes et il permet à l'indigénat de s'émanciper. Ils ont refusé ça et ils ont dit soit on s'émancipe tous ensemble, soit on m'accache. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont dit cette phrase historique.
Avec des meilleurs diplômes, on fait pas des bons cadavres.
Exactement.
Des meilleurs cadavres.
Exactement.
Aussi, il faut réinventer le 19 mai 56.
Absolument.
Justement. Aujourd'hui, absolument. Que absolument. Jeune, ça veut dire, malgré cette situation actuelle, malgré cette répression, c'est clair, aujourd'hui, quand même, la jeunesse algérienne est consciente, le peuple algérien, il est conscient que ce régime-là, que ce système-là, il manifeste une seule volonté, c'est de maintenir le sommet du système. Je pense que, il faut multiplier il faut une convergence. Ça veut dire il y a des luttes, il y a des gens qui luttent chaque jour, mais chacun dans son angle. On a besoin d'une convergence, de fédérer toutes les forces démocratiques qui luttent, qui veulent le changement. Et un jour, la jeunesse algérienne doit être une alternative démocratique. Une Algérie sera gouvernée par des Algériens.
Pour des Algériens.
Voilà.
Et avec les Algériens.
Et comment?
Bien sûr.
Ça va de soi.
Je passe la question à Lydia autrement. Donc, aujourd'hui, dans la société algérienne, on constate un désertement des lieux culturels, des espaces de théâtre, de cinéma, etc. Quelque part, est-ce que c'est pas une référence sur l'absence de la place de la culture et de l'art d'une manière générale? Ou quelque part, c'est aujourd'hui l'art et la culture, il devient inutile à une société comme il l'a qualifié Jawed, une société de consommation qui est en train d'entrer dans sa torde de consommation, etc., qui s'éloigne de la production littéraire et culturelle, spécifiquement à l'identité, à la culture algérienne. Donc,
J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de lieux, comme tu dis, mais j'ai vu ça à la capitale. Comme quoi, il y a des lieux de théâtre, de cinéma, des concerts, et ainsi de suite, et qu'il y a énormément de monde qui y vont. Donc, constater ça, je ne sais pas, est-ce qu'on peut constater que ces lieux-là sont désertés, mais je pourrais dire que peut-être il y a un désintérêt quelque part pour toute production, effectivement. C'est-à-dire que peut-être que la société dans laquelle on vit est tellement rapide, est tellement encline à la consommation uniquement, donc la personne cherche peut-être à consommer rapidement justement même la culture et l'art. Donc ils y vont pour consommer rapidement, donc ils ont besoin de ne pas trop se casser les méninges, de ne pas trop se poser de questions, et c'est peut-être fait exprès quelque part. On pourrait se poser beaucoup de questions et en débattre. Après, il y a une jeunesse aussi, il n'y a pas que cette jeunesse-là, parce qu'il faut de tout quand même pour faire notre pays, et que il y a une autre jeunesse qui est plus dans la production justement, et qui cherche à se réapproprier la culture algérienne, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers la peinture, que ce soit à travers la musique, qui cherche constamment à faire une production algérienne faite par des jeunes algériens. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et on le voit de plus en plus avec nos différents événements, les différents avis des gens qu'on reçoit. Et l'intérêt est de plus en plus grand quand on leur explique que voilà, d'où viennent les idées que tu as en tête et qui sont reçues. Quand on déconstruit un petit peu certaines idées reçues, les gens reviennent vers nous pour nous dire tiens oui, on sent que ils ont plus de ils sont conscients d'être Algériens qui peuvent faire quelque chose. Donc l'incapacité hadik qu'on leur a qu'il y a dans leur tête disparaît petit à petit. Mmh. Maintenant c'est un travail de longue haleine. Je dis pas que ça peut se faire du jour au lendemain et c'est justement pour ça qu'on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire. Écrire des livres, faire des événements, débattre avec vous ici à la radio, aller écrire des articles, faire des conférences. Et il faut pas arrêter, c'est une lutte au quotidien, la lutte permanente, c'est au quotidien. Si on s'engage dans cette voie-là, c'est vraiment au quotidien. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des fruits, mais il y en aura forcément. Ça ne peut pas ne pas servir à quelque chose qu'on est en train de faire. Donc la jeunesse algérienne, je trouve qu'elle prend... Je ne sais pas, il faudrait faire des statistiques, peut-être poser des questions. Ça serait bien aussi de réinvestir l'espace public et d'aller vers les gens, préparer un questionnaire et demander aux gens à ce que qu'est-ce que vous pensez, dites-nous, on doit communiquer entre nous. Et,
le rapport social
Ada, il doit réinvestir nos vies. Et aussi pour comprendre un petit peu par rapport à la production. Pourquoi les gens se désintéressent? Est-ce que, pour savoir aussi l'évolution de la conscience nationale, elle en est où? Est-ce qu'ils se sentent appartenir? Parce qu'on a rencontré des gens qui ont senti qu'il n'y avait pas cette notion d'appartenance au pays, et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de deux langages comme ça qu'on a rencontré tout au long de nos événements, qui mérite débat à chaque fois. Donc voilà, c'est ça.
Oui, c'est bien Lida. Donc je pose la dernière question à l'ensemble de l'assistance, à l'ensemble des participants. Donc avec cette phrase que je veux dire, c'est que aujourd'hui on peut qualifier la conscience nationale, la conscience de la jeunesse avec sa mobilisation et son degré d'organisation. Donc aujourd'hui, Karim, quelle alternative peut-on nous offrir, peut-on nous opposer à la jeunesse algérienne?
Oui, c'est vrai. Moi, comme dernier mot, je peux passer d'abord un message pour la jeunesse algérienne qui voit aujourd'hui la solution, c'est de quitter le pays. Et, je peux dire que non, nous ne partons pas en masse à l'étranger quand même. Ici, nous sommes chez nous, malgré que le désespoir nous a gagné, mais on reste en lutte, en se combat, ça veut dire ensemble pour bâtir l'espoir quand même. Quand même, certains des années 50, la jeunesse algérienne avec peu de moyens qu'ils ont, et ils ont affronté l'une des plus grandes puissances mondiales. Personne, ça veut dire à cette époque-là, peut dire que un jour la France elle va quitter l'Algérie avec le décalage des moyens, etc. Et aujourd'hui, avec un potentiel de jeunes qu'on a, les moyens, etc. Quand même, je pense que on était arrivé au début de la fin de ces régimes totalitaires. C'est une question de temps et d'engagement de la jeunesse algérienne. Et espérons, Inch'Allah, toujours, il y a de l'espoir dans la lutte et du combat.
Merci bien, Karim. Effectivement, Karim, donc, la démarche dans ce processus de prise de conscience et de lutte permanente dans la et de construction dans cette mission de cette jeunesse algérienne actuellement. Donc, qu'on peut en dire dans un dernier mot, Jérôme?
J'aimerais revenir à ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la grève du 19 mai 56, pardon, et l'adhésion massive des intellectuels à la révolution. Ça a été la preuve éclatante que la révolution algérienne a été une révolution populaire, qui a mobilisé toutes les sphères de la société. Ça n'a pas été une révolution bourgeoise ou ça n'a pas été le fait d'une élite, voilà, qui aura mené sa propre guerre et qui aura servi ses propres intérêts, comme ce fut le cas de toutes les révolutions bourgeoises, notamment celle française. Donc, et le fait, pourquoi je dis qu'il faut revenir à la puissante symbolique du 19 mai 56, c'est que à partir du moment où notre révolution était une révolution populaire, donc notre indépendance qui a été l'acte de naissance de notre nation, cette nation-là est essentiellement une nation populaire. Voilà. C'est une nation qui est née d'un mouvement populaire qui a mobilisé toutes les sphères de la société et ses acquis révolutionnaires ne seront concrétisés que si on retrouve cette même mobilisation-là, cette même cohésion, cette même adhésion massive. Donc il ne faut pas que ni la culture, ni l'économie, ni la politique ne soient le fait il faut qu'il y ait communication. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, avec des discours hautains du genre, oui, votre petit peuple chéri est aux trois quarts fasciste, aux trois quarts je sais pas quoi, nous vivons avec 40 millions d'autistes, dire tout ce dénigrement qui permet deux choses. D'abord de faire ce que Noam Chomsky a appelé la fabrication de l'impuissance, c'est-à-dire de rabâcher constamment que ce peuple ne peut arriver à rien, et deux, de se caresser à un sentiment de supériorité selon lequel nous sommes l'élite, qui la crème brûlée qui flotte au-dessus, voilà, et qui hélas souffre de ce peuple boulé avec lequel on ne peut rien faire. Donc entre un Talib Abdelrahman qui a donné sa vie pour que puisse naître la nation algérienne et certains intellectuels qui hélas ne peuvent concevoir le mouvement national que mené par eux et ne peuvent ne se le représenter que dans un narcissisme de classe et avec son pendant, donc son mépris de classe, il y a un fossé énorme. Et donc il faut retrouver
un message pour la jeunesse algérienne.
Le message, c'est le 19 mai 56. Nous sommes nés suite à une révolution populaire qui a mobilisé massivement toutes les classes sociales de notre société. Il faut qu'on retrouve cette adhésion massive et cette cohésion. Voilà. C'est ce que on avait essayé de faire à une certaine période avec le volontariat, avec l'étudiant qui va à la rencontre des paysans, etc. On peut déblatérer tous autant qu'on voudra sur les multiples échecs de cette période-là, en occultant tous ces succès, hein, dans une mauvaise foi ignoble. Toujours est-il que aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce que Joseph Goebbels appelait la défaillance de la capacité de rencontre. Nous sommes une société cloisonnée, mondiale, pas juste en Algérie. Nous sommes ce que David Riesman appelait une foule solitaire. Il faut qu'on retrouve, avec la virtualisation, c'est encore pire. Donc il faut qu'on réapprenne à discuter entre nous. Il faut qu'on ressuscite l'agora réelle pour qu'on sorte des représentations fantasmatiques et des révolutions du clic. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'on cesse d'être des keyboard warriors et qu'on commence un peu à être... qu'on redevienne des frères, voilà, et des compatriotes.
Ok, Jawed. Lydia, un dernier mot.
Un dernier mot. Après,
une dernière phrase.
Une dernière phrase.
Un dernier constat.
Après 54 ans de libération nationale, je trouve que c'est grâce à ça, en fait. Voilà, je vais terminer par ça, parce que c'est M. Ben Saada qui m'a marqué avec cette phrase. C'est que c'est grâce à l'indépendance qu'on est là à débattre de ces sujets-là. Et à vouloir améliorer notre Algérie, parce que ça prouve qu'on a la conscience nationale ici à la radio, et que si quelqu'un peut nous écouter et être d'accord avec nous, c'est qu'il y en a encore ailleurs, et ainsi de suite, et qu'il faut effectivement réhabiliter la cohésion sociale qui est très importante.
Voilà. J'aimerais juste conclure en disant, effectivement, comme a dit Lydia, c'est grâce à l'indépendance que nous sommes là aujourd'hui pour vous dire Sahaïdkoum, bonne fête de l'indépendance.
C'est grâce au sacrifice de nos aînés.
Exactement, et comme l'a très bien rappelé Karim, Allah yarham shuhada,
on est toujours dans le schéma de la construction.
Nous ne les oublierons pas, comme a dit Dédouche, et nous défendrons leur mémoire.
Tout à fait. Donc, à la fin, je tiens à remercier nos chers auditeurs et auditrices pour nous avoir accompagnés. Je remercie Jawed pour la présence.
Merci
avec
à
nous,
vous.
Lydia,
merci.
Karim, je remercie Kamel à la barre technique. Ciao, ciao.
الوجوه صحيحة القمايد جنقية بحالي لا بحالي ولا بحال الدنيا ولا يبي الله يا لايبي لا واه يا لايبي يا ما والولي واه يا سيدي بربا
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.